Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Guillaume Ménard, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Arjuna Andrade, à la réalisation Anna Olvec, prise de son Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous poursuivons notre réflexion sur les liens entre économie et démocratie. Hier, nous tentions de comprendre pourquoi l'impôt, ce puissant outil de redistribution, suscitait tant de résistance. Aujourd'hui, l'histoire et la théorie économique vont nous accompagner pour déterminer ce qui relie le capitalisme à la démocratie. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'effondre devant les caméras du monde entier. La victoire du bloc de l'Ouest est alors célébrée comme celle de la démocratie et de l'économie de marché. La fin de l'histoire, chère à Francis Fukuyama, consacre, veut-on croire, le triomphe d'un modèle politique et d'un système économique avançant main dans la main. Or, de nombreux exemples, à commencer par celui de la Chine, sont venus ébranler cette croyance en un lien indéfectible entre capitalisme et démocratie. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Pour parler de ce que la démocratie doit au capitalisme et inversement, nous accueillons autour de la table Marc Humbert, économiste, professeur émérite des universités à l'université de Rennes 1, co-directeur avec Alain Caillé de l'ouvrage « La démocratie au péril de l'économie » paru aux presses universitaires de Rennes. Avec nous également David Spector, économiste, chercheur au CNRS, professeur associé à l'École d'économie de Paris et auteur de « La gauche, la droite et le marché » publié aux éditions Odile Jacob. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. David Spector et Marc Humbert, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant d'en venir aux liens qui les unissent, comment définir d'abord la démocratie d'une part et le capitalisme de l'autre ? Voilà une vaste question pour commencer, David Spector.
Alors, c'est une question tellement vaste, sans doute la plus vaste qu'on m'ait jamais posée, que je vais me dérober. Et pourquoi ? Parce que simplement, il y a des définitions si nombreuses pour chacun de ces deux termes que ce n'est pas un sujet. Qu'il est impossible de donner une réponse complète. En revanche, je choisirais une approche, une manière un petit peu biaisée de répondre à votre question, mais qui peut aussi ouvrir la discussion, puisque aujourd'hui, l'idée d'associer capitalisme et démocratie peut paraître étonnante ou choquante, dans la mesure où nous vivons une époque d'augmentation forte des inégalités et également de mise en cause des normes démocratiques dans un certain nombre d'États par des hommes politiques qui sont parfois justement eux-mêmes issus du capitalisme le plus violent. Alors, je voudrais revenir, et je parlerai peut-être un petit peu de ça pendant cette émission, sur cette idée qu'il existe à la fois dans la pensée politique et dans la vie politique et économique un courant très fort qu'on peut appeler le capitalisme utopique, pour reprendre une expression de Pierre Rosanvallon, qui voit dans la démocratie et le capitalisme des notions voisines et indissociables. Et l'une des manières d'exprimer ce lien en répondant d'une certaine manière à votre question, c'est de dire qu'il y a un principe commun à la démocratie et au capitalisme, ou plus exactement à l'économie de marché, qui est la remise en cause par des mécanismes de concurrence, de compétition, des positions acquises. Puisque la démocratie politique, au fond, c'est la remise en cause par la compétition électorale des détenteurs du pouvoir politique. Et de même, le principe de l'économie de marché, c'est la compétition entre des offreurs, également des demandeurs, qui, au moins potentiellement, remettent en cause les positions économiques acquises.
Donc la compétition, la concurrence, comme premier lien qu'on peut établir entre le capitalisme et la démocratie. Marc Humbert, il y en a peut-être un autre qui serait l'accumulation de différentes choses, selon qu'on parle de capitalisme ou de démocratie.
Je ne suis pas du tout d'accord, je crois, avec mon collègue ici présent. C'est très important de savoir de quoi on parle quand on parle de la démocratie. Et considérer la démocratie comme une compétition, c'est bien, mais c'est pas la démocratie. La compétition pour avoir le pouvoir, ça correspond à n'importe quel régime politique. La démocratie, c'est un régime politique bien particulier. Le capitalisme, c'est un régime économique, lui aussi bien particulier. Et chacun a une logique et des valeurs qui sont plus ou moins compatibles, plus ou moins différentes. Alors, en ce qui concerne la démocratie, eh bien, c'est quelque chose qui est une rupture totale dans l'histoire de toute l'humanité, qui s'est faite, bien sûr, une fois chez les Grecs, et puis peu à peu, à partir du mouvement des villes en Europe, et puis surtout au moment du 18e siècle avec les Lumières, etc. Et ça veut dire la souveraineté du peuple. Démocratie, c'est la souveraineté du peuple. C'est pas d'abord la compétition pour prendre le pouvoir. Ça veut dire non. On s'arrête, on se pose, on se parle et on trouve un compromis. Bien sûr, c'est pas le peuple qui est souverain. Qui exerce cette souveraineté, il une procédure d'élection qu'on avait inventée déjà dans les cités italiennes ou dans toutes ces villes avec des bourgmestres, etc., où on avait une procédure élective, bien sûr avec une compétition parce qu'il y avait des idées différentes, et puis une fois que c'était fait, on discutait, on délibérait suivant des règles pour prendre, si je puis dire, pour être en rupture totale avec des structures politiques d'ordre, où il y a des gens qui ont un statut, qui sont des rois, qui sont des prêtres, et qui imposent à l'ensemble sa volonté.
Alors justement, Marc Imbert, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est le capitalisme qui a permis l'avènement de la démocratie ? Et à ce propos, je vous propose d'écouter l'historien François Furet, il est au micro de Jacques Chancel.
L'argent est l'élément qui, dans l'histoire du monde, et de la France en particulier, a détruit l'aristocratie. Pourquoi ? Parce qu'une aristocratie, c'est un ordre social où la naissance prime tout, et notamment prime l'argent. Où vous êtes ce que vous êtes selon l'endroit où vous êtes né. Et c'est pour ça que les aristocraties se pensent en termes verticaux, c'est-à-dire d'ascendance, etc. Le monde de l'argent, c'est l'inverse. Vous êtes ce que vous gagnez. Oui. C'est, si vous voulez, l'Amérique. Et là, offre la caricature la plus... Et dans cette mesure, c'est le monde de la démocratie. Puisque c'est l'argent désagrège les supériorités acquises historiques pour les recomposer sans cesse grâce au mouvement de la société. Par conséquent, nous vivons dans une société où les conditions sont loin d'être égales, mais où il y a quand même une énorme différence avec l'ancienne société, c'est que l'individu, à sa naissance, peut être n'importe quoi.
Voilà, une archivina du 21 octobre 1988. Alors, qu'est-ce que vous pensez des propos de François Furet, David Spector ? C'est le capitalisme qui a permis de passer d'une société aristocratique à une société démocratique ?
Ce qui est certain, même si je suis économiste et non historien, c'est que il me semble que le rôle de la bourgeoisie urbaine, commerçante, dans le reflux progressif des pouvoirs monarchiques absolus, l'émergence de régimes parlementaires, notamment en Angleterre, qui n'étaient pas démocratiques, mais qui représentaient néanmoins un premier recul, disons, de l'absolutisme, et qui a été dans le contexte britannique, même si c'est très différent dans le contexte français, le début d'un très long processus qui s'est terminé par le suffrage universel plusieurs siècles plus tard.
On considère en général qu'il y a deux capitalismes, deux phases du capitalisme. Un premier capitalisme commercial entre le 16e et le 18e siècle, et puis un capitalisme industriel.
Oui, on fait souvent cette distinction, mais je crois également que la question de savoir est-ce que le capitalisme conduit à la démocratie, est-ce que la démocratie conduit au capitalisme, est-ce que l'un peut exister sans l'autre, etc. Alors, il y a énormément de débats et même d'études, parfois économétriques, extrêmement détaillées, qui portent sur le 20e siècle, qui examinent les changements qui ont eu lieu dans, par exemple, en Amérique latine. Ce qui est, je crois, à peu près certain, c'est qu'on peut avoir le capitalisme sans démocratie. Le capitalisme est né, après tout, bien avant la démocratie. Il a pu également s'épanouir, par exemple, dans certaines dictatures d'Amérique latine qui n'étaient pas démocratiques. En revanche, on n'a pas, à ma connaissance, d'exemple de démocratie qui n'ait pas été, dans une certaine mesure, qui n'ait pas été principalement des économies de marché, donc capitaliste en ce sens-là.
Je voudrais tout de même vous poser la question, Marc Imbert, parce que il y a certains qui considèrent au contraire que c'est la démocratie qui a permis l'émergence du capitalisme. C'est notamment le cas de votre co-auteur, le sociologue Alain Caillé. Quel est son point de vue ?
C'est le mien également. C'est-à-dire que la démocratie a permis, cherche l'égalité, si on peut dire, entre tous les individus, et ne pas avoir un statut qui impose la place à quelqu'un et qui fait qu'on est dépendant et subordonné, etc. Mais en même temps, la démocratie, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'il y a ces deux éléments, l'égalité démocratique et la liberté. Pour avoir l'égalité, il fallait la liberté. Et cette liberté, ça a permis aussi, comme citait mon collègue, la bourgeoisie de naître, c'est-à-dire de ne plus avoir un pouvoir de l'aristocratie, mais un pouvoir qui était lié au fait que chacun ayant la liberté de s'épanouir peut avoir la liberté aussi de posséder et non pas simplement d'hériter et posséder, acheter des terres. Et le capitalisme a été, bien sûr, est né de cette démocratie, un capitalisme égalitaire, si on peut dire d'une certaine manière, de travailleurs indépendants qui étaient le rêve des premiers capitalistes et qui étaient encore le rêve de Madame Thatcher.
Et en cela, c'est peut-être le libéralisme en tant que modèle politique et économique qui permet de faire le lien entre démocratie et capitalisme, Marc Imbert ?
En tout cas, historiquement, pour moi, et pour un certain nombre de mes collègues comme Alain Caillé, le capitalisme a été... bien sûr, il y avait un capitalisme commercial, mais relativement limité, parce que le capitalisme commercial est venu avant les révolutions libérales, mais dans une époque où il y avait déjà des franchises, c'est-à-dire où il y avait déjà un recul du pouvoir absolu et du pouvoir absolu de l'aristocratie qui permettait à un certain nombre de gens de faire des aventures. On appelait ça des aventures. C'était très limité. Mais les premières lois de la Révolution française sont des lois anti-écologistes, par exemple, qui permettent de couper des arbres dans les forêts au lieu qu'on protégeait les forêts. On était dans un système très ordonné et ce système est devenu libéral et on a libéré la possibilité de en fonction des mérites que l'on avait, de gagner de l'argent. Et c'était considéré pour les protestants comme un signe de l'élection divine, alors qu'auparavant, c'était interdit, le prêt à intérêt était interdit, etc. Et celui qui avait essayé d'obtenir beaucoup d'argent était montré du doigt en disant « il n'a pas respecté les principes moraux et les principes politiques qui sont à l'œuvre. »
Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a de nombreux chercheurs qui ont pensé ce lien entre démocratie et capitalisme, et c'est notamment Raymond Aron qui explique que le capitalisme porte en lui-même la démocratie et qui tend à le modérer. La démocratie tend à modérer le capitalisme. Alors est-ce que c'est justement cette vision qu'il faut conserver, un capitalisme au service de la démocratie, à condition que les instances démocratiques lui apportent des limites, David Spector?
Oui, absolument, lui apporte des limites ou effectivement le protège contre lui-même, et ce qui renvoie en fait à la question sous-jacente de l'inégalité. C'est-à-dire qu'on a au début des révolutions démocratiques, révolution américaine, révolution française, l'idée que l'une des conditions, enfin c'est une idée d'ailleurs qui avait déjà été exprimée par Montesquieu, mais qui remonte au fond d'ailleurs à la Grèce antique, que l'une des conditions de possibilité de la démocratie, c'est que l'inégalité économique soit limitée, et était très présente à l'époque l'idée que la liberté économique, donc idée qui peut étonné aujourd'hui, mais que la liberté économique par le démantèlement des privilèges, des monopoles, des corporations, etc., allait par lui-même amener à l'égalité des conditions. Il y a un texte de Condorcet notamment qui dit cela, qui dit que l'inégalité économique résulte des entraves mises par un pouvoir, donc un pouvoir non démocratique, à l'exercice des activités économiques. Et cette idée qu'un capitalisme, disons, authentique, sans privilèges, promeut l'égalité et donc indirectement la démocratie, elle est sous-jacente, par exemple, à ce qui était l'action la plus ancienne et sans doute la plus spectaculaire aux États-Unis pour modérer et réformer le capitalisme, qui a été l'avènement des lois antitrust, donc à la fin du 19e siècle, qui visait moins à l'époque à atteindre une forme d'efficacité économique par la concurrence qu'à démanteler, à affaiblir des très puissants capitalistes qui avaient nom Carnegie, Rockefeller, JP Morgan, et dont on considérait que leur puissance était néfaste non seulement à l'efficacité économique puisqu'elle étouffait des concurrents qui pouvaient également contribuer au progrès matériel, mais aussi qu'elle menaçait la démocratie elle-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve ce type d'idée d'une réforme du capitalisme, non pas pour le contraindre, mais pour, disons, le redynamiser contre les capitalistes qui ont intérêt, une fois qu'ils ont atteint une certaine puissance, à finalement modifier son fonctionnement pour garder leurs positions acquises. On trouve cette idée également dans l'Europe d'après-guerre, avec notamment l'action de plusieurs gouvernements d'Europe occidentale, y compris en France, mais aussi sous l'impulsion des occupants américains en Allemagne, pour démanteler les cartels. Et on trouve cette idée également aujourd'hui dans des débats très intéressants aux États-Unis.
Alors on va voir effectivement que cette question de la concurrence est absolument centrale. Mais d'abord, je voudrais vous faire écouter un extrait d'un texte de Montesquieu, L'Esprit des lois, publié au milieu du XVIIIe siècle. Montesquieu qui vantait déjà les mérites de la régulation du commerce par l'État.
Comment les lois doivent entretenir la frugalité dans la démocratie ? Il ne suffit pas, dans une bonne démocratie, que les portions de terre soient égales. Il faut qu'elles soient petites, comme chez les Romains. Comme l'égalité des fortunes entretient la frugalité maintient l'égalité des fortunes. Ces choses, quoique différentes, sont telles qu'elles ne peuvent subsister l'une sans l'autre. Chacune d'elles est la cause et l'effet. Si l'une se retire de la démocratie, l'autre la suit toujours. Il est vrai que, lorsque la démocratie est fondée sur le commerce, il peut fort bien arriver que des particuliers y aient de grandes richesses et que les mœurs n'y soient pas corrompues. C'est que l'esprit de commerce entraîne avec soi celui de frugalité, d'économie, de modération, de travail, de sagesse, de tranquillité, d'ordre et de règles. Pour maintenir l'esprit de commerce, il faut que toutes les lois le favorisent, que ces mêmes lois, par leur disposition, divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit, mettent chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance pour pouvoir travailler comme les autres, et chaque citoyen riche dans une telle médiocrité qu'il ait besoin de son travail pour conserver ou pour acquérir.
Un extrait lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Que vous inspire ce texte, Marc Imbert ?
Ça m'inspire que, jusqu'à présent, on a employé le terme capitalisme. Vous m'avez fait définir démocratie, je vous l'ai défini, vous ne m'avez pas demandé de définir capitalisme.
On allait y venir, justement, et la différence notamment entre capitalisme et économie de marché, qui est fondamentale.
Oui, et là, jusqu'à présent, on a employé le terme, mais à mauvais escient. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que la démocratie a permis le développement d'une économie de marché avec des petits propriétaires. Mais le capitalisme, c'est quoi ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous avez vu des gens se réclamer en disant « moi, je suis capitaliste ?» Il y avait John Kenneth Galbraith dans l'un de ses derniers ouvrages, « Les mensonges de l'économie », il disait « aujourd'hui, on ne parle plus de capitalisme, on dit économie de marché ». Et évidemment, les gens ne se réclament pas, dit pas même Pinault, il dit pas je suis un capitaliste, si Pinault, parce qu'il est relativement honnête. Donc le capitalisme, c'est une logique d'illimitation. Accumuler, accumuler, c'est la loi et les prophètes, disait Karl Marx. Et il avait parfaitement raison. C'est pas le problème de savoir quelle est la psychologie humaine, mais d'une façon assez générale, ce qui s'est passé, en dépit de la, si je puis dire, de la bonne volonté de Montesquieu de prêcher la bonne parole, les gens ne sont pas pour la frugalité. Ils veulent en avoir toujours plus, disait François de Closette. C'est-à-dire que c'est pas l'apanage uniquement des gens qui en ont déjà beaucoup, mais même les gens qui en ont beaucoup en veulent encore plus. Et donc, on a ouvert la boîte de Pandore, enfin, je ne sais pas comment il faut le dire. À partir du moment où on a donné la liberté économique, la liberté de posséder, de vendre et d'acheter, et de faire du profit. La motivation de tous ces personnages qui se sont lancés là-dedans, qui ont été d'abord peut-être des capitaines d'industrie, et puis après autre chose, aujourd'hui certainement très différente dans le capitalisme rentier et spéculatif, mais c'est d'avoir toujours plus. Et donc c'est tout à fait opposé à l'idéal de la démocratie, qui est l'égalité des conditions. Je veux parce que sur mon mérite, je peux grimper, je ne sais pas jusque où.
Mais alors justement, est-ce que David Spector, vous faites la différence entre économie de marché et capitalisme ? C'est l'historien Fernand Braudel qui estimait qu'il y avait une différence à la fois d'échelle, mais aussi de nature entre les deux.
Oui, alors en général, disons, ce qu'on peut dire, l'idée d'économie de marché, l'idée de marché, c'est une réalité extrêmement ancienne. Il y a des marchés depuis aussi longtemps qu'il y a des sociétés humaines, un tant soit peu complexes, avec un tant soit peu de division du travail. Quand on parle de capitalisme, ça renvoie d'abord à l'échelle des processus de production, donc à l'industrie moderne qui mobilise des capitaux importants et qui permet aussi l'accumulation de grandes fortunes. Cela dit, il faut distinguer la question de l'importance, disons, la taille des entreprises, des capitaux mobilisés, et celle de l'inégalité des fortunes, qui peuvent effectivement coïncider, comme ça a été le cas à l'origine, effectivement, du capitalisme au XIXe siècle, comme c'est le cas largement aujourd'hui. Il existe également un capitalisme de grandes entreprises moins inégalitaire, qui est celui typiquement de l'après-guerre dans le monde occidental, dans lequel, oui, on a des très grandes entreprises, mais qui sont cotées en bourse et dont les actions sont réparties d'une manière, alors pas complètement égalitaire, mais relativement peu égalitaire, avec par exemple dans beaucoup de pays, c'est moins le cas en France, des fonds de pension qui font qu'une très grande partie de la population, finalement toute la population, détient en vue de ses vieux jours une part de ces entreprises. Il y a d'ailleurs un élément intéressant sur ce plan-là, c'est que l'augmentation actuelle des inégalités, elle a comme corréla la diminution de l'importance de la bourse dans le financement des entreprises et le développement de ce qu'on appelle, enfin, de financement privé, fonds privés, qui sont réservés finalement aux très grandes fortunes. Donc il y a la question, si vous voulez, de l'échelle l'échelle technique de la production qui recoupe en partie, bien sûr, mais en partie seulement, celle de l'inégalité. D'ailleurs, le texte de Montesquieu qui a été lu tout à l'heure renvoie à cette question de l'inégalité en faisant allusion de manière un petit peu presque allusive à la question fiscale, puisqu'il est question de la nécessité pour l'État d'agir pour garantir une certaine aisance aux plus pauvres et modérer la richesse des plus riches. Et il existe effectivement dans ce courant qu'on peut appeler le capitalisme utopique une idée l'idée qu'il faut effectivement que le capitalisme soit tempéré non seulement par une action, disons, qui garantit le fonctionnement de la concurrence contre la tentation que peuvent avoir les très grandes entreprises, les entreprises dominantes, de l'entraver, mais aussi favorable à une redistribution des richesses et des revenus qui peut être très forte. Et la personne finalement qui fait la synthèse de toutes ces idées, et en tout cas leur expression assez articulée pour la première fois dans l'histoire des idées, je crois que c'est John Stuart Mill, qui est en faveur à la fois d'un prélèvement sur les successions pour financer ce qu'on pourrait presque appeler une sorte de revenu universel, et en même temps qui définit, je reviens au début de notre discussion, à la fois le marché, enfin la raison pour laquelle il le soutient, et l'idéal démocratique vers lequel il tend, de manière certes modérée, mais vers lequel il tend quand même, comme renvoyant tous les deux à un principe de limitation du pouvoir par le jeu de mécanismes de compétition.
Et en même temps, si on va du côté de la théorie économique classique de la concurrence, il y a cette idée qu'une concurrence pure et parfaite doit se faire sans l'intervention de l'État. Marc Imbert, dans un premier temps, les premiers économistes ont pensé un capitalisme sans intervention de l'État ?
Les premiers économistes, ils ont fait une révolution extraordinaire qu'on a appelée la révolution libérale, puisque l'État mercantiliste est appuyé sur l'aristocratie et les corporations faisaient que l'ensemble de la société était rigide, c'était une société tout à fait totalitaire. Donc ils ont fait éclater la société. Mais le père de l'économie politique, en principe, on dit, c'est Adam Smith. Mais Adam Smith a écrit d'un côté son livre sur la richesse des nations, et puis d'un autre côté, il a écrit la théorie des sentiments moraux. C'est-à-dire qu'il était à une époque, et ça continuait aussi, par exemple, entre 1945 et 1989, enfin, dans l'après-guerre du capitalisme, si on peut dire, peut-être démocratique, nous étions dans un espace où il n'y a pas seulement le régime politique organisé, et puis le marché, l'économie de marché, sur lequel interviennent librement un certain nombre d'acteurs, mais il y avait aussi une éthique commune partagée par l'ensemble des personnes, y compris, si je puis dire, des capitalistes paternalistes, ou même sans être paternalistes, des gens qui avaient une certaine éthique et qui, c'était les théories sentiments moraux, qui se préoccupaient. Et alors vous avez ce dilemme ou ce paradoxe que d'un côté, Adam Smith dit « il ne faut pas que j'attende de la bienveillance de mon boucher ou du boulanger mon repas », mais en même temps, dans les théories des sentiments moraux, il dit « il faut avoir de l'empathie pour tout le monde », etc. Bien évidemment, ce qui se passait à l'époque, c'est que c'était effectivement réel pour une certaine autre partie. Et donc, il y avait les capitalistes sauvages, et puis il y avait le capitalisme paternaliste, comme on l'a appelé.
Alors, la question qui se pose, David Spector, c'est est-ce que la concurrence sert vraiment l'intérêt général ? Vous parliez tout à l'heure des lois antitrust aux États-Unis à partir de la fin du 19e siècle. Est-ce qu'il y a cette conviction partagée par la population, puisqu'on parle de démocratie, que la concurrence est une bonne chose, David Spector ?
Alors, partagé par la population, c'est une question complexe. La réponse varie sans doute dans le temps et dans l'espace.
Mais alors, pour vous, en quoi la concurrence, selon vous, sert l'intérêt général ?
Bah, tout simplement parce qu'elle limite la possibilité pour les entreprises d'avoir des profits trop élevés, d'une part d'avoir des profits. Donc elle a un effet distributif, puisque en instaurant finalement la lutte entre les producteurs, eh bien elles limitent les profits qu'ils peuvent s'approprier, donc au détriment de la majorité de la population. Donc il y a cet effet distributif. Et puis l'idée, c'est un petit peu l'image d'Épinal, mais disons pour simplifier, c'est que également l'émulation produite par la concurrence incite chacun à améliorer ses produits, diminuer ses coûts, et donc c'est l'un des moteurs du progrès économique. Alors il faut mettre évidemment toutes sortes de bémols. Il y a des secteurs, l'un des grands débats à partir du 19e siècle et qu'on retrouve d'ailleurs chez Marx, c'était de savoir dans quelle mesure il y a eu pendant longtemps l'idée au 19e siècle, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, que la concurrence était une idée un petit peu désuète, un petit peu ringarde, qui datait du 18e, qui était pertinente pour l'époque, pour une économie comme celle de la France à l'époque de la Révolution, c'est-à-dire de petits producteurs, mais qu'elle n'avait plus de sens et même plus de possibilités à l'époque de la grande industrie, puisque régnait l'idée que les coûts fixes dans les nouveaux secteurs, notamment de la deuxième révolution industrielle, la chimie, l'électricité, ou des secteurs plus anciens comme les chemins de fer, avaient pour conséquence que s'il y avait de la concurrence, finalement, la guerre des prix, la guerre entre producteurs allait conduire presque tout le monde à faire faillite, puisqu'il ne serait pas possible de récupérer, de recouvrer les investissements initiaux. Et on trouve cette idée cette idée d'ailleurs sous-jacente à la notion marxiste de chute tendancielle du taux de profit. Et ça conduit, l'une des solutions est évidemment la solution d'étatisation, qui permet de concilier l'échelle de production à très grande ampleur, la production à très grande échelle, et une forme de justice distributive. Donc on avait cette idée à la fin du 19e, au début du 20e siècle, que la concurrence était une idée du passé, plus du tout adaptée à l'économie moderne d'alors. Et finalement, il s'est avéré que cette vision un petit peu apocalyptique de la possibilité d'un régime de concurrence dans une économie industrielle moderne n'était pas si vrai que cela. C'est notamment l'économiste britannique Alfred Marshall qui a montré, après notamment des voyages d'études aux États-Unis, que les économies d'échelle, que l'importance de la taille n'était pas aussi importante qu'on avait coutume de le croire parmi ses contemporains. Et finalement, cette idée de la concurrence impossible, il s'est avéré qu'elle était fondée pour un nombre de secteurs économiques assez limités, qui sont les secteurs qui font encore aujourd'hui l'objet de régulations, c'est-à-dire les infrastructures de transport, d'électricité, de gaz, etc., etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur ce sujet, dans le cadre notamment de la nouvelle économie, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Fond du propos se résumait à ceci. Il fallait en finir avec un régime faible, éloigner la menace communiste, supprimer les syndicats, et permettre à chaque patron d'être un fureur dans son entreprise. Le discours dura une demi-heure. Lorsqu'Hitler eut terminé, Gustave se leva, fit un pas en avant, et au nom de tous les invités présents, il leur remercia d'avoir enfin clarifié la situation politique. Le chancelier fit un rapide tour de piste avant de repartir. On le congratula, on se montra courtois. Les vieux industriels paraissaient soulagés. Cette réunion du 20 février 1933, dans laquelle on pourrait voir un moment unique de l'histoire patronale, une compromission inouïe avec les nazis, n'est rien d'autre pour les Krupp, les Opel, les Siemens, qu'un épisode assez ordinaire de la vie des affaires, une banale levée de fonds. Tous survivront au régime et financeront à l'avenir bien des partis à proportion de leurs performances.
On entendait un extrait de L'Ordre du Jour, le roman d'Éric Vuillard, couronné par le prix Goncourt en 2017. L'écrivain y raconte donc cette réunion du 20 février 1933, lors de laquelle 24 puissants patrons allemands sont reçus par Göring et Hitler et acceptent de financer la campagne du parti nazi pour les législatives. C'est l'un des exemples qu'on peut mobiliser, Marc Imbert, pour montrer que voilà, le système capitaliste peut s'affranchir de la démocratie.
Oui, je crois que... Vous avez cité, je crois, en commençant aussi la Chine, qui développe une économie de marché de type capitaliste, avec des capitalistes qui construisent un monde assez éloigné de la démocratie, puisque les droits de l'homme y sont bafoués de manière remarquable. Alors, ce qu'il faut, je pense, avoir en tête, c'est que les capitalistes sont pragmatiques. Ils sont cyniques, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas d'éthique. Et même les économistes, comme Walras, expliquaient, pour expliquer sa théorie du marché, si un produit est plus utile un assassin qui en a besoin pour tuer quelqu'un qu'à un médecin pour soigner un malade, la règle, c'est la concurrence. C'est le marché. Hein, c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure. Alors, quand c'est très efficace. Alors, les capitalistes sont effectivement de ce côté, de la manière du marché, mais ils sont bien pires que ça. C'est que leur ambition, c'est d'avoir du pouvoir sur le marché. C'est non seulement de dire, on va jouer la concurrence, mais d'avoir du pouvoir sur le marché. Et on n'a jamais vu de toute l'histoire de l'humanité que quelques firmes décident de notre avenir. On parle des GAFA, c'est évident, mais vous avez dans les agrochimistes Monsanto, Bayer qui se sont rapprochés, ça fait qu'il y a 3 agrochimistes dans le monde. On est en train, avec Huawei, d'avoir une bataille extraordinaire. C'est-à-dire que le monde réel, ce n'est pas de la compétition comme sur un petit stade de province dans le week-end. Non, ce sont des mastodontes, non pas des éléphants, mais des mammouths qui se battent et qui s'entretuent. Et quand les mammouths se battent, la prairie souffre, disent les Africains.
Et face à cette concentration, effectivement, à nouveau, le rôle de l'État régulateur se pose. David Spector, je voudrais vous entendre sur cette idée selon laquelle le capitalisme peut parfaitement s'épanouir dans un régime autoritaire.
Alors, d'abord peut-être, puisque cette question renvoie également à ce qu'on vient d'entendre, effectivement, le lien entre les grands cartels allemands et le nazisme, ça a été, il faut bien voir que c'est le point culminant d'une histoire dans laquelle l'Allemagne incarne, et depuis la fin du 19e, disons un parti, une vision de l'économie et une pratique également de la vie économique qui se veut... qui s'assume comme étant extrêmement cartellisée, concentrée et très limitative, disons, des mécanismes concurrentiels qu'en Allemagne, également dans une perspective de presque de combat culturel, de Kulturkampf contre le monde, contre le libéralisme anglo-saxon, on définit comme étant propre, disons, au génie national allemand. Et ça, c'est une idée qui est très liée, même dans tout un discours allemand, au militarisme et à la construction d'un État fort. Et effectivement, le passage de l'Europe à une union douanière, donc qui met enfin un protectionnisme qui était également très fort en Allemagne, mais aussi à des règles de concurrence importantes, c'est quelque chose qui, à la fin de la guerre, a été conçu comme une très forte réaction au nazisme. Donc dans cette vision d'une économie libre, concurrentielle, notamment en Allemagne aujourd'hui, il y a une dimension morale et politique que peut-être on ne perçoit pas toujours en France ou dans le reste du monde. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, la Chine aujourd'hui, c'est vraiment le pays qui conduit parfois à se demander si toutes ces idées, ces belles idées qu'on a, qui finalement, malgré toutes les vicissitudes dont on a parlé, auxquelles on continue à croire un petit peu depuis les libéraux classiques, d'un lien entre liberté politique, liberté économique, état de droit et capitalisme. Dans quelle mesure est-ce que ça fait voler en éclats cette idée? Alors, j'aurais un petit peu envie de citer cette phrase qu'on attribue, je crois, parfois à Schoenlai, je ne sais pas si elle est apocryphe ou non, qui ont demandé son avis sur la Révolution française et qui aurait dit, je ne sais pas, c'est beaucoup trop tôt pour répondre. Sur la Chine, est-ce que le succès économique chinois est dû, comme on le dit parfois, à l'efficacité d'un État, finalement d'une sorte de dictature bienveillante qui pourrait planifier à long terme et qu'on oppose parfois au côté un petit peu chaotique de l'autre très grand pays d'Asie qui est l'Inde et dont la démocratie très compliquée finalement aurait tendance à paralyser la décision publique. Ce n'est pas aussi clair que cela. C'est-à-dire que il y a aussi, si on regarde l'évolution de la Chine depuis la mort de Mao, c'est quand même une évolution dans le sens d'une certaine ouverture, il y a plus de droits individuels, plus d'états de droit en Chine aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque de la révolution culturelle. Donc, dans quelle mesure est-ce que le développement chinois jusqu'à aujourd'hui est un rattrapage partant quand même de très bas et d'un niveau qui était anormalement bas compte tenu, par exemple, du niveau d'éducation de la Chine au XXe siècle, permis par une certaine ouverture, un certain développement partiel de l'état de droit, ou dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment le génie de cet état autoritaire? Ce n'est pas clair. Il existe quand même des observateurs qui disent que le développement de la Chine jusqu'à maintenant est un rattrapage qui a permis, effectivement, qui a été extraordinaire, mais que pour continuer à se développer, la Chine devra passer vers un, devra évoluer dans le sens d'une plus grande démocratie. Et en effet, si on regarde ce qui est le moteur du développement économique aujourd'hui, c'est-à-dire notamment l'innovation technologique, qui implique la possibilité pour des entreprises de détrôner d'autres entreprises qui sont déjà là, qui sont déjà dominantes, ben on voit bien qu'un régime dans lequel il y a des entreprises d'État puissantes adossées à des banques privées, des hommes d'affaires qui peuvent être des capitalistes privés, mais qui sont également des positions importantes au Parti communiste. Est-ce que un État qui fonctionne comme ça permettra à une petite entreprise fondée dans un garage, comme dit le cliché, de détrôner des positions acquises très importantes? Ce n'est pas clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui empêche peut-être, ce qui risque de freiner le développement, ce qui pourrait être une menace sur le développement économique aux États-Unis, c'est la puissance acquise par ces grandes entreprises privées. Mmh. En Chine, on a ces entreprises publiques ou privées, mais adossées sur le pouvoir politique. Donc on peut imaginer qu'une certaine ouverture du système politique et d'un renforcement de l'état de droit soit nécessaire pour que la Chine poursuive son développement.
Et au-delà de la Chine, on pourrait peut-être tenter de pousser la logique plus loin et de demander du moins si le capitalisme ne s'épanouit pas jamais aussi bien que dans des régimes non démocratiques ou dans des régimes qui ne le seraient qu'imparfaitement, comme l'Union européenne, qu'on dit souvent imparfaitement démocratique. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc Imbert?
Oh, c'est une question, je trouve, assez compliquée. La question que vous posez indirectement dans la suite de ce que vient de dire mon collègue, c'est est-ce que le capitalisme pousse à la démocratie et est-ce que les démocraties ralentissent le capitalisme? Ben, c'est clair que entre 1945 et 1989, la démocratie a limité le capitalisme qui a été terriblement efficace. Vous avez les taux de croissance et l'augmentation, la diminution des inégalités partout dans les pays industrialisés qui ont pratiqué cette affaire-là. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Si le capitalisme est encadré par des lois de la concurrence, mais par bien d'autres réglementations, si en même temps un certain nombre de monopoles naturels sont aux mains de l'État et non pas aux mains de capitalistes privés, ça marche très très bien. Pas de chômage, etc. Bon, ça, c'est la première élément. Deuxième élément, c'est que ça se faisait dans des espaces nationaux et même au niveau de l'Union européenne, gros problème, parce que la seule qui fait des excédents du commerce extérieur, c'est l'Allemagne, la seule qui a 3% de recherche et développement de dépenses de recherche sur son PIB, c'est l'Allemagne, c'est-à-dire la seule qui a tenu tête jusqu'à présent à la Chine, c'est l'Allemagne. Et nous, par derrière, on est tout petit et on décline, notre industrie disparaît. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Tout au moins, ma théorie, et c'est pas là seulement la mienne, c'est que nous étions des capitalistes démocratiques en train d'exploiter depuis 2 siècles le reste de la planète. Et le développement de la Chine aujourd'hui, ce sont des multinationales allemandes, américaines, japonaises qui l'ont construit. C'est-à-dire que dans la mesure où en 89, ce qui se passe, en fait, c'est l'arrêt de la croissance, c'est l'épuisement de la norme de consommation, c'est la diminution du taux de profit, et que pour restaurer le taux de profit, il faut aller se délocaliser ailleurs, et il faut exploiter des mains-d'œuvre qui sont pas chères, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de démocratie ailleurs que chez nous. Et c'est bien pour cela qu'on a essayé, mais maintenant, eh bien, les autres se rebiffent, et donc on se retrouve dans une compétition à l'OMC où il y a des règles de la concurrence, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais enfin, il faut bien voir que c'est la concurrence entre le moins-disant fiscal, entre le moins-disant social, entre le moins-disant des droits de l'homme. C'est une compétition où c'est vraiment la loi du plus fort, c'est la foire d'empoigne. Arm's length competition. C'est pas de l'économie de marché comme on avait l'idéal au 19e siècle.
David Spector, cette idée que la mondialisation aurait une lourde part de responsabilité.
Alors, peut-être quand même sur votre question de la possibilité du fait que le capitalisme s'épanouisse mieux dans des régimes partiellement démocratiques. Vous parliez de l'Union européenne. Bon, l'Union européenne, c'est quand même l'une des zones, l'une des parties de la planète dans lesquelles la démocratie est la plus forte, même si elle est loin d'être parfaite. Mais il est vrai qu'il existe une vision, disons qu'on peut appeler un libéralisme pessimisme, notamment chez des gens comme Hayek ou Milton Friedman, qui considère que ce qui est important, ce n'est pas la démocratie, mais l'état minimal qui garantit les droits de propriété, le respect des contrats, mais qui se méfie de la démocratie dans la mesure où des gouvernants démagogiques cédant aux passions populaires pourrait entraver le jeu des marchés, créer de l'imprévisibilité, voire, comme ce sont des personnes plutôt à droite, faire trop de redistribution, trop de taxation, et d'une manière qui entraverait le développement économique. Et d'ailleurs, on trouve cette idée de manière caricaturale et extrême dans le livre de Hayek, publié en 44 ou 45, La route de la servitude, dans laquelle il explique que les projets d'État-providence, donc de type rooseveltien, et dont il voyait poindre l'extension en Europe et aux États-Unis pour l'après-guerre, allait conduire, comme dit le titre, à la servitude, à une sorte de stalinisme, ce qui s'est avéré complètement faux, puisqu'on peut avoir des pays comme les États scandinaves ou la France, dans lesquels il y a beaucoup de dépenses publiques, beaucoup de redistribution, on peut être pour ou contre, mais en tout cas, ça n'a pas détruit la démocratie. La question que vous posiez sur l'Union européenne, à mon avis, elle renvoie à un autre type de tension entre démocratie et fonctionnement de l'économie, qui, d'une certaine manière, est liée, même si c'est de manière beaucoup plus douce, à cette idée hayekienne ou friedmanienne que la vie politique, avec son bruit, sa fureur, sa démagogie, peut être néfaste à l'efficacité économique. C'est cette tendance qu'on observe dans tous les pays développés depuis une trentaine d'années à confier des domaines d'action qui jusque-là étaient l'attribut des gouvernements à ce qu'on appelle des autorités administratives indépendantes. Ça peut être des entités comme les banques centrales qui sont devenues indépendantes. Ça peut être des autorités de régulation, des télécoms, des médias, des services postaux, des chemins de fer ou de la concurrence. Et ça, effectivement, quand on regarde les justifications apporté, alors d'ailleurs à l'origine par des économistes, mais qui ont convaincu bien au-delà du cercle des économistes, puisqu'elles se sont traduites par ces changements institutionnels très importants, et on voit que finalement ça renvoie à l'idée, par exemple pour la Banque centrale, qu'un gouvernement, un Premier ministre ou un Président, à court terme, voudra pousser sa Banque centrale à faire de l'inflation pour baisser le chômage juste avant les prochaines élections, même si à long terme, ça provoque des anticipations d'inflation qui vont augmenter les taux d'intérêt, mais donc qui vont avoir un effet néfaste à long terme.
Donc l'efficacité économique est assurée par les technocrates, finalement.
Dans cette vision-là, oui. Et alors, le point extrême de cette vision, ce sont les gens qui disent que finalement, la Chine, c'est mieux parce qu'on a des gens non élus qui peuvent raisonner avec un horizon de 30 ans, ce qui me paraît assez naïf, en réalité, comme manière de voir cette vision du haut fonctionnaire ou du gouvernant bienveillant qui est motivé par l'intérêt de son pays à 30 ans, me paraît assez illusoire. Mais effectivement, on a cette tension, notamment dans la construction européenne, et même si on n'en parle pas beaucoup dans le cadre de la campagne des européennes, je crois que la perception de l'Europe comme une entité peu démocratique est liée aussi au fait que c'est au niveau européen plutôt qu'au niveau national qu'une partie de ces délégations de pouvoir ont été faites.
I hate the capitalist system, and I'll tell you the reason why. It has caused me so much suffering and my dearest friends to die. Well, I know you all are wondering what it has done to me. Well, I am going to tell you that my husband has TB, brought on by hard work and low wages and never enough to eat. From going cold and hungry with no shoes upon his feet. My husband was a coal miner who worked hard and risked his life just trying to support three children, himself, his mother and wife.
I hate the capitalist system, chantait Barbara Dane dans les années 70. David Spector et Marc Imbert sont toujours avec nous pour parler des liens entre démocratie et capitalisme. Alors face à un pouvoir économique de plus en plus puissant, en particulier depuis les années 70, on en parlait, Marc Imbert, quelles ont été les stratégies des États pour tenter de répondre à cette puissance croissante ?
Alors, bon, j'ai une position qui n'est peut-être pas celle de tout le monde, mais je crois qu'il y a eu très nettement On va prendre un exemple, Clinton. Clinton a été l'apôtre de la politique commerciale stratégique. Et notre collègue Krugman lui a dit, mais quand il parle de tout ça, c'est comme si qu'il avait un drapeau qui disait, je ne sais pas ce que je raconte. Mais la réalité a bien été celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau être vanté le libre-échange depuis 1995 à l'OMC qui n'arrive pas à s'en sortir. Les États-Unis se sont forgés sur le protectionnisme. L'Allemagne s'est forgée sur le protectionnisme, les Japonais se sont forgés sur le protectionnisme, etc. Et l'époque du GATT et des 30 Glorieuses, c'est un libéralisme relativement mesuré qui exclut le textile parce que ça nous embêtait, on n'était pas assez fort, c'était là où on commençait à se faire avoir par les pays du tiers-monde. L'agriculture, on le mettait de côté, entièrement protégé avec la PAC et du côté des... Donc en fait, la réalité du monde, le monde réel, a toujours été un monde où les États avaient en charge, bien sûr, l'aspect démocratique, l'aspect sécurité, paix, mais l'aspect prospérité. Et dans la prospérité, eh bien, il avait nécessairement à s'appuyer, la démocratie avait besoin du capitalisme, si je puis dire, du capitalisme national. Donc il y avait une collusion entre, quoi qu'on en dise, entre les entreprises et l'État. Et même si on avait des multinationales, jusque la dernière mondialisation, on savait très bien quelle était la nationalité de ces firmes. Donc vous avez eu le fameux truc de Jean-Jacques Schreber, le défi américain. Quand on voyait que l'Europe se constituait, il y avait un tarif extérieur commun, les Américains ont dit « au secours !» Et les firmes américaines sont venues investir en Europe. Les Européennes ont tenté de réinvestir de l'autre côté, ce qui fait que l'essentiel de l'investissement international se faisait entre pays industrialisés. Au fur et à mesure, à partir de 76, etc., qu'on libère les taux de change, les capitaux, au lieu de s'allouer là où il y en a besoin, c'est-à-dire les pays du tiers-monde, en fait, on va investir aux États-Unis, on va investir en Europe de façon croisée.
Mais les entreprises, les multinationales ont encore une nationalité. Marc Imbert, on voit que les États-Unis, par exemple, essayent de réguler, de taxer davantage les GAFA que ne peut le faire l'Union Européenne.
Ça devient un petit peu compliqué. Quelle est la nationalité de Monsanto Bayer? Bayer, c'est une Allemande. Monsanto, c'est une Américaine. On est arrivé à un moment avec les accords. C'est pas l'OMC, mais ce sont les accords, les traités internationaux sont maintenant des traités sur l'investissement. Des traités sur l'investissement qui mettent des clauses qui fait que quand une entreprise multinationale n'est pas d'accord avec un État, on va pas voir la juridiction de l'État, on va sur un tribunal d'arbitrage où il se passe des choses du genre de tapis, vous avez vu comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un échelon où effectivement les entreprises, Danemark fait un ambassadeur auprès de Google. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer dans un monde qu'on n'a jamais connu et qui me paraît extrêmement dangereux.
David Spector, sur le fait que les GAFA ou les banques dites « too big to fail » semblent échapper largement à un contrôle démocratique.
Oui, alors justement sur les arbitrages, justement s'il y a une affaire tapis, c'est bien parce qu'on a considéré que l'arbitrage de l'affaire Adidas n'avait pas fonctionné comme un arbitrage est censé fonctionner. Donc c'est question de savoir si c'est l'exception ou la règle, comme vous sembliez le dire, me semble encore ouverte. Alors effectivement, sur le protectionnisme, on est quand même, enfin, la plus grande période de prospérité de l'histoire, c'est-à-dire depuis l'après-guerre, elle a quand même lieu dans une époque de grande ouverture commerciale, puisque au sein de l'Europe, et le commerce international, c'est avant tout du commerce historiquement entre États voisins, même si c'est quelque chose qui a un petit peu évolué récemment, mais enfin, on commerce encore plus avec l'Allemagne qu'avec la Chine. C'est donc une ouverture totale dans laquelle donc l'Allemagne, enfin, les pays européens ont tourné le dos au protectionnisme de la première moitié du siècle. Au niveau mondial, les droits de douane ont quand même progressivement baissé fortement, et donc la prospérité quand même assez générale d'après-guerre, elle s'inscrit quand même dans ce contexte d'ouverture des frontières. Alors effectivement, la question posée, que les entreprises grossissent en taille d'une manière qui correspond à la fois à l'évolution technique, alors là c'est pas seulement les nouvelles technologies, ce sont aussi les techniques de transport, notamment avec l'avènement des containers, qui a diminué très fortement le coût du transport intercontinental, et dans un contexte d'ouverture des marchés, ce n'est pas ça en soi qui est problématique. Dans la mesure où le pouvoir politique suit, c'est-à-dire où il ne perd pas sa capacité à réguler et à taxer.
Mais justement, est-ce que le temps de la démocratie, c'est le temps de l'économie?
C'est un problème qui se pose de manière différente dans différents pays. Aux États-Unis, l'échelle du pays permet de taxer les entreprises. Si l'impôt sur les sociétés vient d'être baissé de 35 à 20% par Trump, ce n'est pas parce qu'il y aurait une impossibilité intrinsèque pour les États, pour le pouvoir politique de s'imposer à l'économie. C'est parce qu'on a un parti républicain qui est complètement acheté par les grandes par certaines très grandes fortunes et qui a mis en place cet agenda de baisse des impôts sur les très grands revenus, sur les revenus très élevés et les grandes entreprises, qui ne correspond d'ailleurs pas du tout aux souhaits de la majorité de la population. Je dis ça non seulement parce que la majorité des électeurs a voté pour Hillary Clinton et non pour Trump, mais aussi parce que même parmi les électeurs républicains, ces mesures-là ne sont pas spécialement populaires. Ce problème du poids, de la puissance des États face aux grandes entreprises, il se pose avant tout au niveau européen, puisqu'on a ces problèmes, ces questions de concurrence fiscale entre États. Donc on a des pays États comme le Luxembourg ou l'Irlande qui ont construit leur avantage comparatif non pas sur une force intrinsèque qu'ils détenaient, mais simplement sur un taux d'impôt plus bas, donc ce qui est simplement ce qui ne crée rien au niveau européen, mais qui détruit de la base imposable dans les autres États. Et ce qui devrait être l'un des enjeux principaux de la campagne des européennes et du débat européen plus généralement, c'est la question de la coordination fiscale pour pouvoir taxer les grandes entreprises. Et c'est un problème qui est rendu encore plus aigu par l'avènement des GAFA, puisque la concurrence fiscale au sens traditionnel, il s'agit de savoir pour une entreprise si elle va implanter son usine ici ou là, et les États vont jouer à la baisse des impôts pour attirer l'usine. Dans le cas d'entreprises qui rendent des services immatériels et pour lesquels il est très difficile de définir où la valeur est créée, eh bien là, on peut avoir recours à des artifices comptables, à des filiales qui vont concentrer les profits dans l'État qui a les taux d'imposition les plus bas. Donc effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est celui-là, mais ce n'est pas quelque chose d'insoluble. C'est avant tout une question de volonté politique.
Vous parliez tout à l'heure, Marc Imbert, d'un capitalisme démocratique, selon le philosophe Jean-Fabien Spitz, dans la revue Esprit, ce capitalisme démocratique aura peut-être été une exception historique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et dans ce cas-là, comment renouer les liens entre capitalisme et démocratie?
Oui, c'est vrai que ça a été une exception historique, un peu cette période. Enfin, je voudrais quand même dire que si les droits de douane ont baissé, c'est parce que les barrières non tarifaires avaient monté à des niveaux incroyables. C'est bien pour ça qu'on a fait l'organisation de l'OMC. C'est-à-dire que c'était pour dire que ce n'était pas libéral. Donc là, je suis en désaccord sur cette position. On avait un capitalisme démocratique et avec une protection très très forte à l'extérieur de l'Europe. Tout à fait d'accord à l'intérieur. En ce qui concerne tout est exceptionnel. L'histoire ne se répète pas. Donc le problème, c'est de savoir soit on laisse continuer tel que ça fait, soit on peut avoir l'idée utopique présentée par mon collègue, et nous avons une autre idée utopique qui est le convivialisme. C'est-à-dire qu'on a une espèce de pensée un peu plus complexe qui dit il faut voir ensemble et l'égalité et la liberté.
Alors d'où vient d'abord le terme de convivialisme?
Le terme de convivialisme a été emprunté en fait à la convivialité de Illich. La convivialité, bon, c'est d'un monde dans lequel on voudrait vivre. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la convivialité, ça se fait pas à 2000. Il faut qu'on soit un petit nombre, et puis on est fraternel, on est libre, et puis on est effectivement tous égaux, on est autour d'une table, etc. Et la convivialité, pour lui, il s'est rendu compte que le gros problème, c'est que l'outil, quand il a une très grande taille, au lieu de servir l'homme, il l'a servi. Il y a eu un ouvrage de Olivier Héret qui s'appelle « Une question de taille » qui montre très bien que dès que la taille est grande, ça devient terrible. Pourquoi y a-t-il des très hauts salaires? Parce qu'il y a des très grosses entreprises.
Donc c'est un retour au local qui est promis et une remise en cause de la propriété privée?
Non, c'est pas une remise en cause. Il faut dégonfler le mammouth. Dégonfler tous les mammouths, ces énormes mammouths des entreprises, peut-être des États aussi qui sont trop gros, c'est-à-dire qu'il faut décentraliser. Il faut dégonfler le marché, pas avoir du marché partout, c'était mon collègue qui l'expliquait tout à l'heure. Tout est marchandisé maintenant, c'est pas possible. Il faut dégonfler la globalisation, c'est-à-dire qu'il faut arrêter l'hubris qui est cette démesure dans laquelle nous sommes pris tous, et ça exige beaucoup d'éthique.
Un dernier mot peut-être, David Pector, on arrive au terme de cette émission sur ce convivialisme. Effectivement, il y a un manifeste qui était sorti en 2013, qui avait été signé par de nombreux intellectuels, Yann Moulier-Boutan, Chantal Mouffe ou encore Dominique Méda, avec cette idée de donner un cadre théorique à des initiatives plutôt dispersées autour de la décroissance, autour de la théorie des communs. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée du convivialisme?
Je ne suis pas expert, est-ce convivialisme beaucoup moins que mon collègue, donc mais En revanche, bon, la décroissance, puisqu'on parlait de démocratie tout à l'heure, la décroissance ne peut advenir que si la majorité de la population veut décroître, et pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, peut-être un jour. Mais effectivement, toutes les utopies sont intéressantes pour stimuler le débat. Il y a celles qui viennent d'être mentionnées. Il y a également des utopies libéralo-capitalistes assez amusantes qui émergent plus de l'autre côté de l'Atlantique. Par exemple, un livre paru l'an dernier de Glenn Vale qui propose de remettre en cause de manière assez radicale la propriété privée en demandant à chacun d'énoncer le prix de tout ce qu'il possède et ensuite soit de payer un impôt sur la propriété sur la base de la valeur qu'il a déclarée, soit d'accepter que n'importe qui achète le bien à la valeur qu'il a déclarée. Donc c'est un petit peu farfelu, mais ça fait réfléchir et ça montre en tout cas que la notion même de propriété et de marché n'a pas fini de susciter des débats et peut-être d'évoluer.
Beaucoup d'idées à inventer, on l'a compris. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur une affaire qui a occupé tous les esprits cette semaine, la question de la reconstruction de Notre-Dame et surtout de son financement.
Mais oui, car passé le temps de la sidération et de l'émotion, l'incendie de Notre-Dame a permis de mettre en lumière un mécanisme économique jusqu'alors peu connu, le mécénat et la défiscalisation à la française. Ainsi, quelques heures à peine après le départ de l'incendie, les principales richesses de France s'engageaient à verser près d'1 milliard d'euros pour rebâtir la cathédrale de Paris. Mais comme nous l'apprenait l'anthropologue Marcel Mauss, le don ne se fait jamais sans contrepartie, il entraîne toujours un contre-don. En l'espèce, outre les avantages évidents de les faire apparaître comme les sauveurs de Notre-Dame, cette contrepartie se révélait sonnante et trébuchante, puisque tout don à une association philanthropique, culturelle ou éducative donnait droit à une réduction fiscale de 60% sur l'impôt sur les sociétés. Si bien qu'on a vu se multiplier ces dernières années les fondations d'entreprises donnant joyeusement aux œuvres de leur choix.
Ces déductions fiscales atteignant ainsi en 2017 près d'1 milliard d'euros contre à peine 230 millions il y a 10 ans.
Absolument, avec des dons extrêmement concentrés, puisque selon un article de Marianne, les 10 premières entreprises donatrices bénéficient à elles seules du tiers de l'enveloppe fiscale. Pour se donner une meilleure idée, 99% des entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt de l'ordre de quelques milliers d'euros, quand LVMH, première de la liste, bénéficiait en 2017 de près de 62 millions d'euros de déduction fiscale. Alors bien sûr, François Pinault a annoncé qu'il renonçait à cette défiscalisation et Bernard Arnault a révélé qu'il n'y avait pas droit, ayant déjà atteint le plafond autorisé pour son entreprise, soit près de 210 millions d'euros de dons de la part de LVMH. Mais ce n'est pas tant les sommes en question qui posent problème, ni le fait que ces milliardaires donnent pour reconstruire un trésor de l'architecture française. On leur aurait d'ailleurs probablement reproché s'ils ne l'avaient pas fait. Non, ce qui pose problème, c'est le système dans lequel ils s'insèrent et ce qu'ils disent de l'avenir de notre vivre ensemble.
Certains ont ainsi critiqué que l'engagement des grandes fortunes se substitue de plus en plus à l'action de l'État.
Exactement, et si tout cela coûte cher, bien entendu, pourquoi ne pas favoriser la contribution plutôt que la donation? Comment imaginer en effet construire une volonté commune en se fondant sur le seul volontariat de nos plus grandes fortunes? C'est la question que l'on pourrait se poser face à la multiplication de ces générosités instantanées. Pourquoi s'empresser de donner pour une cause en particulier quand d'autres associations, œuvres de charité, peinent à se financer? Pourquoi ces vieilles pierres plutôt que l'abbé Pierre, si ce n'est l'émotion en mondovision à laquelle il est impératif de répondre pour entretenir son image et faire bonne impression?
Mais la valorisation de cette forme de charité privée nous interroge aussi sur ce qui permet de faire société.
Absolument, dans un article de 2006 déjà, le philosophe Frédéric Lordon s'interrogeait sur l'extinction pure et simple de l'action publique entièrement dissoute dans la morale du transfert charitable. Pour Frédéric Lordon, cette montée en puissance du don privé dans un contexte de baisse des dépenses publiques n'est pas sans conséquence, puisque ce sont désormais les acteurs privés qui sont chargés de déterminer l'orientation de leurs dépenses en fonction de leur expérience et des valeurs qu'ils souhaitent porter. Un profond mouvement de bascule qui remet en cause notre capacité d'organisation et de délibération collective pour y substituer un ordre politique et une morale fondée sur l'intérêt.
It's coming through a hole in the air from those gnats in Tiananmen Square.
On se quitte avec Démocratie de Leonard Cohen. Merci beaucoup David Spector et Marc Imbert de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On se retrouve demain pour une émission consacrée au pouvoir de l'argent à l'heure du vote. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.